Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Réveil culturel, à la radio ou en podcast, émission préparée avec Corinne Namar, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin la prise de son Jacaz Hubert. Tous les mercredis, c'est l'actualité du cinéma et aujourd'hui le Réveil culturel reçoit le réalisateur et documentariste suisse Nicolas Vadimoff, à l'occasion de la sortie en salle de l'Apollon de Gaza.
Le Réveil culturel, mercredi, cinéma.
Été 2013, un vendredi 16 août dans la bande de Gaza, alors qu'il rangeait ses filets, Jaoudat Roulab, un pêcheur palestinien, aperçoit quelque chose d'étrange qui flotte au large. Un cadavre ? Non, une statue, une énorme statue. Est-elle en or ou en bronze ? Est-ce un trésor envoyé par les dieux du ciel et de la mer ou une œuvre de faussaire ? Et si c'était une statue d'Apollon ? Dieu des arts et de la beauté et de la divination, donc un vestige archéologique majeur de l'Antiquité, l'unique Apollon de bronze découvert au Proche-Orient. Toujours-t-il que cette statue repêchée au large de Gaza va faire l'objet de toutes les spéculations, de tous les chantages, même la police du Hamas va s'en mêler. Et dans la confusion, très moyen-orientale, l'Apollon de Gaza va disparaître tout aussi mystérieusement qu'elle avait apparu, quelques semaines à peine après sa découverte. Qui l'a volée ? Où est-elle cachée ? Qui a vraiment vu cette statue ? Quelle est son histoire, son origine ? Le documentaire « L'Apollon de Gaza » qui sort aujourd'hui au cinéma est une enquête auprès de ceux et de celles qui ont approché ou entendu parler de cette statue. Mais plutôt que de chercher des réponses aux questions autour de la disparition de cette statue, le réalisateur Nicolas Vadimoff nous convie entre Jérusalem et Gaza à partager les rêves, les cauchemars, le présent et la mémoire des Palestiniens. Ce thriller archéologique s'avère donc un film politique et poétique. Nicolas Vadimoff, bonjour.
Bonjour.
Ce n'est pas la première fois que vous tournez en Palestine. Vous avez, on peut dire que vous êtes investi dans ce pays. Ça fait 15 ans que vous tournez des documentaires et des films là-bas.
Oui, ça fait même un peu plus. Le premier documentaire que j'ai tourné là-bas, c'était sur la communauté arménienne de Jérusalem et c'était en 91.
Ah oui.
Voilà.
Voilà un film qui de votre filmographie qui m'a échappé.
Oui, oui, parce qu'il y figure pas. Effectivement, il s'appelle Arménie-Jérusalem. Voilà. Mais c'était un petit documentaire, un des premiers que je faisais. Et puis ensuite, j'en ai tourné un autre qui s'appelait Les Gants d'Or d'Aka, qui était l'histoire d'un Palestinien d'Israël qui désirait être champion du monde de boxe, comme souvent les boxeurs, et qui devait affronter un grand paradoxe. C'était à la fois se sentir très palestinien et devoir faire partie de l'équipe de boxe d'Israël pour les Jeux Olympiques. En 92. Donc j'ai toujours essayé de traiter un peu des paradoxes et des contradictions et de la complexité.
Et pourquoi cette région du monde plus particulièrement ?
Alors c'est une grande question que je me pose souvent, mais je pense pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai découvert cette terre en 88. Je faisais un voyage au Yémen, j'ai tourné un documentaire aussi. Et je suis repassé par la Jordanie, ensuite par Jérusalem, par la Palestine, et j'étais en pleine première intifada. Et puis j'étais très jeune, et puis je crois que je me suis pris ça un peu comme une espèce de coup dans la tête. C'était une grande gifle. C'était très fort émotionnellement. J'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai gardé des liens forts, et surtout avec des cinéastes, des gens qui font du cinéma. Qui encore aujourd'hui j'ai des liens. Et puis ensuite j'y suis retourné quand j'étais un peu plus, on va dire, confirmé, établi en Suisse comme réalisateur ou producteur. J'ai monté des ateliers avec des jeunes cinéastes palestiniens. Et on a fait un projet qui s'appelle les Swiss Palestinian Encounters, les rencontres suisses palestiniennes, pour amener aussi des cinéastes à montrer leurs films en Europe. Aujourd'hui ils en ont bien sûr plus du tout besoin parce qu'ils sont très forts. C'est une forme d'engagement, je dirais artistique aussi, sans doute politique, bien sûr aussi, mais culturel et artistique. Et puis, du fil en aiguille, j'y suis retourné assez régulièrement. Et j'ai fait un film avec Béatrice Guelpa, qui est journaliste et qui collabore souvent avec moi, en 2005, qui était sorti d'ailleurs en France, qui s'appelait L'Accord, qui était une sorte de radiographie d'une tentative d'accord de paix. Un des derniers, on va dire, lorsque ça semblait pas forcément possible, mais... éventuellement, enfin lorsqu'on en parlait encore.
Donc un film directement politique, ce qui n'est pas le cas.
Ça, c'est un film directement politique, justement. Et c'était le dernier, je dirais, parce que ça m'a vacciné un peu. C'est-à-dire qu'on a vraiment, on s'est donné corps et âme. On a suivi pendant une année le quotidien de 6 Israéliens et 6 Palestiniens qui jouaient à faire la paix, mais pour montrer qu'un accord était possible. Et puis, bien évidemment, ils sont parvenus à un accord, tant bien que mal.
Qui jouaient à faire la paix, ça veut dire
quoi ? Qui jouaient à faire la paix parce que c'était une entreprise qui n'était pas officielle. C'était Yasser Abed Rabo du côté palestinien, Yossi Béline du côté israélien, et qui se sont réunis pour montrer au monde qu'un accord était possible, mais comme ils le faisaient dans un cadre qui n'était pas un cadre complètement officiel, ils pouvaient aller un peu plus loin que ce que la réelle politique autorise, et puis traiter les questions qui fâchent, les questions sensibles. Alors évidemment, aucune des deux parties n'était satisfaite de l'accord, et c'est pour ça que finalement ça n'a pas été plus loin, parce qu'il a été rejeté par la majorité des Palestiniens, parce qu'ils trouvaient que la question du droit au retour était mal gérée, évidemment. Et puis elle a été rejetée du côté israélien, parce que la majorité des Israéliens trouvaient que l'accord faisait trop de concessions en matière de territoire.
Enfin, et vous, Nicolas Vadimov, en tant que bon Suisse, vous étiez neutre?
Moi, je documentais, en fait, c'est le ministère des Affaires étrangères suisse, ouais, qui a été parrain de cet accord. Et dans cette obsession toute helvétique de la Suisse, qu'on avait des bons offices et de la médiation, mmh, et de la neutralité, ils ont essayé justement de... Bah, ils ont en fait sponsorisé et financé toute cette tentative pendant plusieurs années d'ailleurs. Et puis ça n'a amené, comme vous le savez, non seulement ça n'a amené à rien, mais la situation n'a fait que s'empirer. Et j'en suis sorti avec Béatrice Guelpin, on en est sorti très... Pas déçu, parce qu'on ne se faisait pas de grandes illusions, mais assez amer sur la question, en se disant qu'on a presque l'impression d'avoir été, pas roulé dans la farine, mais d'avoir passé beaucoup de temps à documenter quelque chose et à filmer quelque chose qui n'en valait peut-être aujourd'hui plus vraiment la peine. Et c'est pour ça qu'on a, quelques années plus tard, on a fait un autre film tout à fait différent à Gaza qui s'appelait Aishin.
Nous vivons, toujours vivants,
dont le titre ici en France, lorsqu'il est sorti, était Chronique de Gaza. Qui là sortait, je dirais, du politique, en tout cas ne parlait pas d'hommes ou de femmes politiques ou de gens qui en faisaient, mais traitait, dans un espace-temps donné, qui était une durée de 2 semaines, le quotidien des habitants de Gaza juste après l'opération Plomb durci. Et c'était un film qui, sous un angle beaucoup plus poétique, parlait de la formidable résilience qui habite les habitants de Gaza.
Et qu'on retrouve dans l'Apollon de Gaza, avec à l'origine ce fait divers, cette statue que vous n'avez pas vue d'ailleurs, vous. Mais c'est quoi cette histoire? Je voudrais avoir votre avis, votre point de vue, votre version, puisque chacun dans ce documentaire a sa propre version.
Ben, je crois que ma version, c'est celle du film, c'est-à-dire essayer d'embrasser... toute cette histoire dans toute sa complexité, dans la diversité de ses points de vue, qui pour moi compose Gaza, compose ce Moyen-Orient.
Oui, mais s'il fallait résumer les faits avérés, il y a bien un pêcheur palestinien qui, un matin, découvre une statue au large de Gaza.
Alors, ça, on ne le sait même pas. C'est-à-dire que les vrais faits avérés, c'est qu'il y a des photos. Il y a des photos qui ont été prises pour de vrai par une vraie personne qui s'appelle Hayam El-Batar, qui est une femme archéologue du ministère des Antiquités en place actuellement à Gaza, donc qui dépend du Hamas, et qui a été envoyée par son ministère faire des photos et regarder si cette histoire de statue était avérée. Elle s'est rendue dans un endroit où la statue était déposée, chez un bijoutier en l'occurrence, mm-hmm, qui la possédait, mm-hmm, et elle a fait ses photos. Ça, c'est le seul vrai témoignage qu'on possède. Et ces photos existent, on peut les voir, on les trouve sur Internet. Elles sont tout à fait surprenantes parce qu'on y voit la statue magnifique, superbe, très, très rare, semble-t-il, qui fait plus d'1,70 m en bronze et qui repose sur une couverture bariolée de schtroumpf.
Voilà,
c'est là. Et c'est toute une histoire, c'est schtroumpf, parce qu'on a essayé de savoir d'où venait cette couverture. On a fini par l'identifier, mais ça a mis très longtemps. C'est une couverture qu'on trouve en Israël, et donc qui a sans doute été achetée par des Palestiniens en Israël, et qu'on trouve dans les marchés de jouets à Tel Aviv, par exemple. Et cette couverture a servi de matelas à l'Apollon de Gaza, qui était de manière totalement dérisoire, posée là-dessus. Donc, à partir de là, ces photos, on peut circuler dans le monde. Surtout une, qui est celle de la mise en vente sur eBay, une journée, le jour au lendemain, on vend une statue, 500 000 livres, statue de bronze d'Apollon datant de 200 avant Jésus-Christ. Voilà. Ça apparaît sur eBay. La communauté archéologique s'en empare, enfin voit ça.
L'UNESCO se réveille.
L'UNESCO se réveille, etc. Hier soir, on montrait le film l'avant-première. Oui. Il y avait Elias Sambar, l'ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO, qui raconte que dès qu'ils ont su ça, justement, ils ont mis tout de suite ce qu'on appelle un flag, un red flag sur l'affaire, c'est-à-dire un avertissement. Cette statue est invendable, elle appartient, elle fait partie du patrimoine palestinien, donc elle appartient à la Palestine, elle ne peut en aucun cas être vendue.
Mais cette statue, personne ne l'a expertisée. Il n'y a pas eu d'expertise. On ne sait pas si c'est un Apollon, on ne sait pas si elle est romaine ou grecque, on ne sait pas si c'est...
Les gens ont voulu l'expertiser, bien évidemment. Le Louvre, tout de suite, se met en branle, dit, écoutez, nous on arrive, on envoie des émissaires pour la restaurer, mais c'est là toute la difficulté de la situation. C'est comme vous le savez, le Hamas est considéré comme groupe terroriste par l'Union européenne, par les membres de l'Union européenne, par les États-Unis. Et donc, la France, le gouvernement français, interdit à ses citoyens,
donc au Louvre,
de se rendre à Gaza et d'avoir affaire avec les autorités en place, c'est-à-dire le Hamas. Donc, blocage total, et on est dans une situation totalement ubuesque, où la statue est détenue par un groupe Hamas, que ce soit sa branche politique ou sa branche militaire, qui n'est reconnue par personne, et que ceux qui sont reconnus qui pourrait parler pour elle, pour la statue, l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, elle n'a pas la statue. Donc, eux, en gros, font des gesticulations, disent « elle est à nous, elle est au peuple palestinien », mais ils ne l'ont pas, et ils n'ont aucun accès à la statue, vu qu'ils ne vont pas à Gaza. Et elle est donc dans une espèce de zone de non-droit, ou de, enfin une zone grise, dans laquelle personne ne peut intervenir.
Oui, parce qu'entre-temps, officiellement, cette statue a disparu, pour compliquer une situation qui n'était pas mal.
Ouais. Qui était déjà pas mal
compliqué. Oui, dès le départ, ouais.
Alors la statue, elle apparaît. Alors elle apparaît dans des circonstances extrêmement troubles. C'est déjà ça qui est extraordinaire. C'est qu'elle apparaît, soi-disant, dans la mer. Voilà. Et le pêcheur, que bien évidemment on rencontre et qui nous raconte son histoire, la découvre, voit une main qui dépasse, se dit qu'est-ce que c'est, comme vous l'avez si bien raconté en début d'émission, et met la main dessus, appelle ses cousins, il la retire de la mer, ils s'y mettent à plusieurs, et puis il raconte ça avec moult détails, et puis ensuite il la transfère à son cousin, lui-même bijoutier de son état, qui décide, alors on ne sait pas si c'est l'un ou l'autre, il se renvoie un peu la balle, de couper un doigt de la statue pour voir si c'est de l'or.
Et finalement, ils se rendent compte que non, c'est du bronze.
Ils se rendent compte que c'est du bronze. Et à partir de là, les versions divergent. De manière générale, de toute façon, la version diverge dès le départ, parce que pour la plupart des scientifiques qui ont pu voir les photos, ils disent que c'est impossible que cette statue ait séjourné dans la mer longtemps, parce que si c'était le cas, on y trouverait de la corrosion marine. On a plein de coquillages, de crustacés, etc. Et ce n'est pas le cas. Donc, pour la plupart des gens qui s'y connaissent, elle a sans doute été découverte ailleurs, et déposée pour brouiller les pistes dans la mer. Voilà. Donc déjà sur d'où elle vient, comment elle est là, personne s'entend. Et donc voilà, c'est un peu ce dont parle le film, c'est cette multiplicité des points de vue qui
elle
compose
est où
une fresque.
Elle est où aujourd'hui, cette statue ?
Alors cette statue, lorsque le ministère des Antiquités, Hamas politique, on va dire officiel, veut mettre la main dessus, les gens qui la détiennent disent... c'est pas comme ça que ça va se passer, on la reprend et vous n'avez pas accès. Donc ils sont plus forts que le Hamas politique, donc ça ne peut être effectivement que la branche militaire du Hamas. Voilà. Ils l'enterrent, soi-disant, ou ils la mettent à l'abri. Voilà. Elle reste un an sous terre, cachée. D'après certaines hypothèses, voilà, elle est, lors des bombardements de 2014, un des chefs du Hamas branche militaire, voit sa maison bombardée, sa famille périr dans les bombardements, et lui s'en échappe, et la statue, enterrée dans le jardin, est touchée et apparemment endommagée assez sérieusement, décapitée.
Vous dites bien apparemment, Nicolas.
Je prends des précautions pour tout, parce qu'il y a tout ce qu'on sait.
Parce que chacun a sa version.
C'est ça qui est magnifique.
Oui, c'est ça qui est magnifique. Et vous montrez bien que dans cette région du monde, les gens vivent aussi bien avec les mythes qu'avec le réel.
Oui, c'est ça. Et c'est ce dont parle le film, finalement. Ça interroge un peu notre rapport à la vérité, notre rapport au mythe, notre rapport au symbole.
Un point de vue d'un homme de foi, parce que nous sommes dans une terre trois fois sacrée, qui est à la fois père dominicain, mais surtout archéologue, spécialiste de Gaza. C'est lui qui ouvre votre film, l'Apollon de Gaza, on l'écoute.
20 fois, 100 fois, on m'a dit, on a une statue, on a une statuette. Alors un jour, on me dit, on a trouvé une statue. On a trouvé une statue à Gaza, je dis, ah bon, oui, sans enthousiasme, évidemment, c'était l'histoire qui se répétait. Et la personne me dit, non, cette fois c'est important. Alors je dis, bon, il faut me montrer ou m'envoyer une photo, c'est pas possible. Alors je dis, bah, alors on attend. Et alors peu à peu, l'Apollon de Gaza est entré doucement dans les milieux, évidemment, que je côtoyais. Donc, à un moment donné, il a fallu que j'accepte que c'était alors une vraie découverte.
Le père dominicain et archéologue spécialiste de Gaza, Jean-Baptiste Humbert, que vous interviewez, Nicolas Vadimov, dans votre film « L'Apollon de Gaza », il est filmé dans l'école biblique et archéologique de Jérusalem. Ce qu'il dit, c'est assez troublant, il dit que c'est pas la première fois qu'on parle de ces statues.
Oui, parce que lui a l'habitude, il a beaucoup fouillé à Gaza entre 95 et 2000, qui est la période un peu dorée pour l'archéologie à Gaza, durant laquelle ils ont mis à nu un port hellénistique, le port d'Antedon. Et pendant qu'il fouillait, évidemment, que très très fréquemment, il y avait des gens qui venaient, tout un chacun, qui venaient lui dire, écoutez, il faut que vous veniez chez moi, j'ai ça à vous montrer, j'ai une statue, j'ai une amphore, j'ai un bas-relief, enfin voilà. Parce qu'à Gaza, on creuse pour faire une maison et on découvre des vestiges archéologiques, hein. C'est d'une richesse absolument inouïe. Et donc, effectivement, il avait déclenché une espèce de distance et de... Bon, il regardait ça avec un peu avec humour. C'est bon, encore une fois, on va me montrer un truc. Et là, effectivement, lorsqu'il a vu les photos de la statue d'Apollon, il est resté complètement scotché, si on peut dire, quoi. Et il n'a pas fini d'être ébahi. Et pour son plus grand malheur, justement, le père Jean-Baptiste Humbert, pour les raisons dont on parlait avant, ne peut plus se rendre à Gaza. Donc, ils ont dû interrompre toutes les fouilles qui ont été recouvertes depuis par du sable. Au moins, ça préserve cette cité antique et tout le reste qu'ils avaient découvert, sur lesquels maintenant se trouvent des bases militaires du Hamas. Et lui observe ça à distance. Par contre, il est assez intimement persuadé qu'elle est authentique.
Qu'elle est authentique ?
Oui, parce qu'il y a débat aussi sur son authenticité. Ouais. Comme vous disiez avant, est-ce qu'elle est grecque, grecque-romaine ? Est-ce qu'elle est vraiment ancienne ? Tout le monde s'entend pour dire qu'elle est très ancienne. Tout le monde s'entend pour dire que ça n'aurait aucun intérêt aujourd'hui de faire un tel faux, qui serait très compliqué à faire, pour le poser là au milieu, ou alors c'est un plan machiavélique. Mais enfin. Et que donc elle date de très longtemps, mais qu'elle aurait pu, à l'époque, il y a 2000 ans, être une fausse. C'est ce que je trouve fantastique, c'est que qu'est-ce que c'est qu'un vieux faux ? Est-ce qu'un vieux faux devient vrai ? À mon sens, il est vrai, parce qu'il est vraiment vieux.
Mais alors, en tournant ce film, en tournant cette enquête, Nicolas Vadimov, pour votre film L'Apollon de Gaza, très vite, on se rend compte que ce thriller archéologique, parce que tout part à partir d'une enquête pour savoir d'où vient cette statue, est-ce qu'elle est vraiment authentique, comment l'authentifier, qui la possède encore. Vous abandonnez très vite cette piste, parce qu'avec vous, on pénètre d'autres cercle de Palestiniens, et pas seulement de Palestiniens d'ailleurs, on va en parler, et c'est pour vous une manière aussi de questionner le rapport à la mémoire.
Voilà, mais complètement, c'est bien sûr qu'au bout de tout ça, l'histoire de la statue est quand même, pour moi, même si elle m'a beaucoup fait rire, elle m'a beaucoup amusé, c'est très jubilatoire de faire ce film, c'est bien sûr un prétexte pour parler d'autre chose, pour parler de cette mémoire dont le peuple gazaoui, je dirais, les Palestiniens en général, mais particulièrement à Gaza, sont coupés aujourd'hui, sont déconnectés. Il y a quand même toute une entreprise, je dirais, qui est globale, hein, sans jeter la pierre en détail à personne, mais qui est de construction d'une image des habitants de Gaza, particulièrement dans les médias, qui est absolument désastreuse, dévastatrice. C'est-à-dire, ce serait des gens assoiffés de sang, avec des grandes barbes et le couteau entre les dents, qui ne penseraient qu'à la violence. Alors, bien évidemment, il y a une résistance à Gaza, bien évidemment, il y a une violence politique, mais c'est une terre qui regorge d'un passé splendide, somptueux, extraordinaire. C'était un port qui était à la croisée des civilisations à l'époque. Et cette beauté, à mon sens, irradie Gaza, et lorsque j'ai entendu parler de cette histoire, c'était le moyen pour moi de reconnecter entre la sensation que j'avais depuis longtemps, quand j'y allais, t'as l'impression d'être dans un endroit incroyable, d'une richesse, encore une fois, culturelle et historique extraordinaire, et puis dont on parlait jamais, voilà. Et effectivement, cette statue d'Apollon, ou sa soudaine apparition, a permis aux habitants de Gaza de se reconnecter un peu avec ce passé, trouble, complexe, qui questionne beaucoup, enfin, dont personne n'a la réponse définitive, mais en tout cas qui est bien plus riche que ce qu'on raconte aujourd'hui.
y a une annonce sur le net qui est apparue, une enchère qui partait du Canada. Ça nous a fait rêver.
D'après moi, c'est un trou qui a dû être fait ou maintenant, ou il y a 30 ans en arrière.
Là. أنا بتحدى أصلي أورجنال لا مش مصاب مش إمكانية
Cet Apollon est une antiquité exceptionnelle. L'enthousiasme a été fort.
Le monde entier s'est passionné pour Apollon. Et depuis lors, on est quand même 2 ans plus tard, c'est fini. Apollon a disparu. C'est le bon moment pour aller le chercher.
Antiquité exceptionnelle ou pièce de faussaire, l'Apollon de Gaza, un fait divers qui vous a inspiré, Nicolas Vadimov, puisque vous consacrez tout un film qui sort aujourd'hui en salle, l'Apollon de Gaza. Vous ressortez avec quelle impression ? Que dit cette histoire pour vous, vous qui connaissez très bien cette région ?
Elle me laisse un sentiment un peu contradictoire, en même temps... Un immense plaisir d'avoir fait ce film, d'avoir pu, à travers cette histoire, rencontrer des personnages hauts en couleur, stupéfiants, tous aussi...
Des pêcheurs, des bijoutiers, voilà. Des archéologues...
Des faussaires, des trafiquants d'art, voilà, c'est un monde absolument passionnant. J'ai l'impression d'être dans un Tintin ou un Blake et Mortimer en permanence. Alors ça, si j'avais pu encore prolonger l'exercice, je l'aurais fait avec plaisir.
Oui, le mystère de l'Apollon de Gaza, c'est vrai. Ça fait très aventure de bande dessinée. Voilà. Mais sauf que vous revenez quand même à la situation géopolitique de Gaza, des Palestiniens, et de vous rappeler que dans cette région du monde, chacun a sa croyance, et que très souvent, c'est bien ça le problème.
Mais c'est bien ça le problème, oui. Non, mais ça, comme je le disais, à la fois ce sentiment qui était très heureux d'avoir fait ce film, et puis en même temps, de nouveau, une profonde désespérance de ce sentiment, en fait, d'injustice que j'ai, qui est ce décalage immense entre la manière dont on raconte, dont on rapporte cette terre, dont on rapporte Gaza, et ce qu'elle est, et surtout ce qu'elle pourrait être. Voilà. Alors, je n'essaie pas de réparer, parce que ce serait bien au-delà de mes possibilités, mais l'idée, c'était vraiment, avec le film, d'éclairer cette région par un autre angle, et d'essayer d'ouvrir un peu, et ça marche. Quand je montre le film, les gens, et c'est ça d'ailleurs en même temps qui est très beau et à la fois très triste, les gens me disent « on n'aurait jamais cru, on n'aurait jamais pensé qu'à Gaza, il puisse y avoir des gens si... » Je sens bien qu'ils ont envie de me dire si cultivé, si ouvert, si juste qu'il y a des gens comme partout, il y a des professeurs, il y a des chauffeurs de charrettes, il y a des pêcheurs, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui essayent de faire au mieux comme partout dans le monde et qui sont qui vivent une situation qui est bien évidemment, vous le savez, qui est catastrophique, qui est au quotidien juste impossible. Et donc quand je me trouve là-bas avec l'équipe, on se dit chaque fois mais comment c'est possible qu'on s'y sente malgré les privations, malgré privations pour les gens qui y vivent, pas pour nous, mais malgré le blocus, les gens qui vivent une catastrophe quotidienne et en même temps sont d'une chaleur, d'une convivialité et d'une intelligence et d'une ouverture d'esprit complètement remarquable. Voilà. Et
on parle encore aujourd'hui à Gaza de l'Apollon de Gaza, de la statue.
Je pense qu'ils sont passés un peu à autre chose, mais je pense que dès qu'on va en reparler, parce que là il y a un peu de nouveau des soubresauts, il semblerait que les deux parties qui ont des profondes divergences, donc le Hamas politique, le Hamas militaire, soient maintenant en train d'avancer un peu sur la question et qu'ils essaient de la récupérer. Il semblerait qu'elle soit peut-être sortie de Gaza. Enfin, je ne vais pas vous perdre encore dans toutes ces spéculations parce qu'elles sont tellement différentes les unes des autres. Mais je pense que le jour où on va en reparler, et ça va être bientôt, les habitants de Gaza, la population, va se jeter un peu corps et âme de nouveau dans cette histoire parce que ça montre bien ce besoin, hein, complètement légitime, mais de s'accrocher à un espoir, à une histoire passée fantastique.
D'autant plus que tous les Palestiniens que vous avez interviewés, Nicolas Vadimov, vous disaient une seule chose qui revenait très souvent, c'est-à-dire qu'on veut la garder chez nous, cette statue. Ça nous appartient, c'est notre histoire.
Mais oui, parce que de manière générale, les œuvres d'art qui sont découvertes appartiennent à l'endroit où elles ont été trouvées, c'est toute la question. Donc ils ont envie de l'exposer là-bas, tout en ayant un problème, c'est qu'ils n'ont pas les moyens technique, scientifique, technologique pour pouvoir l'analyser. Voilà. Donc il faudrait maintenant le soutien, un appui d'un pays qui a ces moyens-là, la France, la Suisse, d'autres pays qui pourraient le faire.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Toutes les informations concernant le film L'Apollon de Gaza de Nicolas Vadimov sont à retrouver bien sûr à la page du Réveil culturel. Merci beaucoup d'être passé ce matin à nous en parler.
Ben merci, c'était un plaisir.